Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal en langue française. Et tout d'abord, les titres. L'accord de paix conclu ce 4 décembre entre le Rwanda et la RDC, un accord signé sous l'égide du président américain, comporte également des volets économiques, une première. Analysé d'un enseignant d'université politologue, Dr Guillaume Ndaikengoulouté. Vous le suivrez. La première dame appelle les victimes à briser le silence et invite la justice à prendre ce phénomène au sérieux dans la violence basée sur le genre. C'était lors de l'ouverture officielle de ce jour d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ce jeudi à Gitega. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques a lancé ce jeudi une campagne de 16 jours d'activisme contre la corruption, un combat de tous les citoyens, rappelle Gabriel Oufier, président de cette organisation. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation, François Kimala sur la mise en onde et bienvenue.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Comme je viens de vous le dire en titre, l'accord de paix conclu ce 4 décembre entre le Rwanda et la RDC, un accord signé sous l'égide du président américain, comporte également des volets économiques qui n'est première. Selon un enseignant d'université politologue, si les deux États parviennent réellement à s'entendre pour un retour à la paix, celle-ci pourrait être effective, même si certaines parties prenantes au conflit ne sont pas présentes à Washington pour la signature de ces accords. Dr Guillaume Ndaikengoulouté estime néanmoins que ces accords constituent un grand pas en avant. Suivez-le.
Peut-être qu'il faudra attendre un peu de temps pour voir l'impact. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il s'agit d'un grand pas. Le fait que les deux États qui, depuis des années, s'accusent mutuellement, notamment la RDC qui accuse le Rwanda d'entretenir une certaine déstabilisation sur son territoire, le fait que ces États puissent se rencontrer et s'accorder sur un texte qui est dénommé accord de paix, et je pense qu'il s'agit d'un grand pas.
Vous parlez d'un grand pas, mais il y a des parties prenantes à cette guerre, à cette instabilité à l'est de la RDC, notamment le M23, l'AFC, qui ne sont pas à Washington. Est-ce que ça ne va pas impacter ces accords de paix?
S'il y avait un engagement authentique de la part des États concernés aujourd'hui qui signent cet accord à œuvrer effectivement pour la paix dans cette zone et dans la région, cela ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Mais d'ores et déjà, j'en doute. Cela ne devait pas poser des problèmes parce que, vous savez, c'est l'histoire des mouvements armés au sein de la RDC, tout comme au sein de notre région. Chaque fois qu'il y a eu un mouvement armé qui est parvenu à créer une certaine instabilité, ce mouvement devait avoir une base arrière quelque part dans l'un des États de la région. Ce qui laisse croire que si ces États sont effectivement engagés authentiquement pour œuvrer en faveur de la paix, cela laisse croire qu'il peut y avoir un allègement de la souffrance et, si vous voulez, une certaine régression des hostilités dans cette zone. Et puis, n'oubliez pas donc qu'à côté de ce processus de Washington qui concerne les États, il y a aussi ce processus de Doha où des négociations sont menées entre la RDC et le M23. Cela peut nous pousser à croire que dans une logique de complémentarité entre le processus de Washington et le processus de Doha, on peut aboutir à une paix. Une paix certes fragile, mais voilà.
Déjà avec l'annonce de ces accords de ce 4 décembre, il y a des violences en RDC, des coups de feu qui sont entendus. Quelle est la lecture?
C'est effectivement la grande question qu'il faut se poser, le niveau de légitimité de ces accords. Parce que, voyez-vous, ce sont des accords qui interviennent après plusieurs tentatives. Rien que tout récemment, il y a eu le processus de Nairobi, il y a eu le processus de Luanda. Les deux ont échoué. Il y a donc lieu de se poser la question de savoir quelle est cette portion magique qui a été mobilisée au niveau de Washington pour que ça puisse créer ce climat de paix alors que les autres processus précédents ont échoué. Et fondamentalement, ce qui peut intriguer, c'est cet accord de paix, et ça semble inédit, qui s'accompagne aussi de ce qu'ils appellent le cadre d'intégration économique, c'est-à-dire un cadre où cette fois-ci ce sont les États, RDC, Rwanda et dans une certaine mesure les États-Unis qui s'entendent sur la gestion des ressources naturelles, les parcs naturels, les questions d'énergie. Donc des intérêts économiques qui sont assumés dans le cadre de ce que les anglophones appellent « interest-based diplomacy ». Donc il y a lieu de demander si dans cette dynamique actuelle, les intérêts économiques ne supplantent pas les objectifs de paix et de stabilité.
Guillaume Ndakengurutse était au micro de Mireille Kanyange. La première dame burundaise Angélique Ndayishimiye tire la sonnette d'alarme. Les violences faites aux femmes n'affectent pas seulement les victimes, elles freinent aussi le développement mental des enfants. Un avertissement lancé lors de l'ouverture officielle des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ce jeudi à Gitega. Cette année, la campagne met l'accent sur les violences numériques. La première dame appelle les victimes à briser le silence et invite la justice à prendre ce phénomène au sérieux. Le reportage est signé Fidèle d'Antoine Sabiman.
Devant un public composé de responsables gouvernementaux, d'organisations de défense et de droits des femmes et filles, la première dame du Burundi n'a pas mâché ses mots. Pour elle, les violences faites aux femmes ne détruisent pas seulement des foyers, elles fragilisent aussi l'avenir des enfants. Pour Angéline Ndayishimiye, un enfant qui passe la nuit à voir sa mère être battue ne peut pas se concentrer à l'école. Ce traumatisme freine son développement mental. Cette mise en garde intervient alors que s'ouvre la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Le thème choisi cette année, c'est « Unissons-nous pour vaincre les violences numériques faites aux femmes et aux filles ». Dans ces cérémonies, la première dame burundaise a énuméré des violences parfois invisibles, mais aussi réelles. Harcèlement sur les réseaux sociaux, diffusion non consentie d'images, usurpation d'identité, autant de formes d'abus qui touchent de plus en plus de femmes et de jeunes filles. Elle demande aux victimes de violences numériques de briser le silence et de traduire les auteurs en justice afin de faire face à ce fléau qui s'étend à une allure inquiétante. Un appel clair également adressé au ministère de la Justice, invité à renforcer le cadre légal et accéder les poursuites contre les auteurs de ces violences. Il a aussi souligné que beaucoup de femmes ont peur de parler. Ce message de la première dame peut encourager plus de victimes à demander justice. Entre sensibilisation, éducation numérique et plaidoyer, les acteurs de la campagne espèrent faire reculer un phénomène en pleine expansion au Burundi comme ailleurs. Les 16 jours d'activisme se poursuivront à travers tout le pays avec des ateliers de formation et des actions de sensibilisation destinées à protéger les femmes en ligne comme hors ligne. De Gitega, Fidèle d'Antoine Sabimana pour la radio Isanganiro.
On s'excuse sur quelques imperfections de cet élément sonore. Nous allons les corriger juste après. Continuons ce journal et par la page gouvernance où le président l'ICOM qui lutte contre la corruption n'a pas été effective au Burundi car elle n'est pratiquement restée que dans les discours politiques, a indiqué ce jeudi le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'était lors du lancement de la campagne de ce jour d'activisme contre la corruption. Gabriel Ruffieri ayant aussi réaffirmé à l'endroit de ceux qui pensent que ce combat serait voué à l'échec, que c'est un concours de tous les citoyens burundais. Suivez Gabriel Ruffieri.
Quand on regarde comment la corruption est combattue, il est clair que les corrompus sont devenus plus forts que l'État. C'est clair, c'est visible qu'aujourd'hui, les corrompus continuent à influencer même les lois qui sont votées. Je vous donne un exemple simple. En 2006, il y a eu vote de la loi anticorruption. Mais regardez, dans toutes les institutions, surtout les juridictions, cours suprêmes, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, normalement, à travers la Constitution, dans son article 95 et la loi anticorruption, des articles 29 à 38, les mandataires publics et les gestionnaires des institutions publiques et les gestionnaires de fonds, les comptables, les caissiers et autres, devraient montrer à déclarer les biens. Mais jusqu'à aujourd'hui, je dois vous redire, si vous allez dans n'importe quel tribunal de résidence ou cour d'appel, je suis sûr qu'ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas même ce genre de choses. Et pourtant, la loi existe. Donc, la corruption au Burundi est devenue endémique. Voilà pourquoi c'est un combat de tout le monde actuellement. La lutte contre la corruption doit être en synergie. La lutte doit être en synergie parce que dans le monde entier, même si on regarde la Convention des Nations Unies, on dit que là où il y a la lutte effective contre la corruption, il doit y avoir ce que nous appelons l'existence d'un système national d'intégrité. Il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a les partis politiques au pouvoir et opposition, il y a vous les médias, il y a nous la société civile, il y a le secteur privé, il y a les citoyens. Donc c'est comme des piliers. S'il y a un pilier qui n'est pas fonctionnel, eh bien c'est tout le système qui s'écroule. Donc on le comme seul doit jouer son rôle. Vous les médias, vous devez jouer votre rôle. Chacun doit jouer son rôle. C'est pour cette raison que dans tous les pays du monde, si son système national de l'intégrité ne fonctionne pas, la lutte contre la corruption ne peut pas être effective. La justice doit jouer son rôle.
Radio Isanganiro, le journal continue. L'ignorance et la détérioration des mœurs et l'absence de dialogue entre parents et enfants sont quelques faits qui font que les adolescents soient confrontés aux harcèlements sur les réseaux sociaux. Propos tenus par le porte-parole de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, au mois où l'on célèbre les 16 jours d'activisme contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ferdinand Simbaruidje estime qu'il faut une synergie de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de l'enfance pour lutter contre ce genre de harcèlement et surtout que les lois soient utilisées pour sanctionner les auteurs de ces crimes. Suivez-le.
Parfois, c'est vraiment lié à l'ignorance parce que, vous savez, pour les enfants, par exemple, pour les jeunes filles, par exemple, ils n'ont pas vraiment, ils ont une pensée vraiment très limitée. Bon, en fait, ils posent aujourd'hui un acte, mais ne savent pas que ça pourra se répercuter sur son avenir. En plus, les autres causes de cet aussi est liée, disons, au problème d'encadrement familial. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des parents aujourd'hui, n'accordent pas vraiment à leurs enfants du temps nécessaire pour échanger sur leur vie. Et sur le comportement responsable, et vous comprenez qu'un enfant qui n'aura pas eu cet encadrement pourra alors copier ailleurs et faire ce qui n'est pas vraiment digne pour une personne responsable. Et face à cela, je sais que nous savons qu'il y a des acteurs dans le domaine des droits de l'homme qui font des actions ici et là, et beaucoup plus liées aux sensibilisations, mais nous estimons au niveau de la FENADEB que les actions jusqu'ici menées ne sont pas suffisantes. Et alors c'est pour cela que nous interpellons tous les acteurs qui sont dans ce domaine vraiment de faire, vraiment de conjuguer les efforts afin vraiment de diminuer de tels crimes, parce que pour moi je peux vraiment baptiser de crimes ces actions et ces violences. Alors, nous voulions alors d'abord demander au gouvernement, à la justice, beaucoup à la justice, de réprimer les auteurs des violences numériques, de les réprimer, parce que nous avons des lois qui sont là, il faut vraiment que ces lois soient appliquées.
Page et société à présent, une mésentente est survenue parmi les pasteurs membres de la communauté des églises pentecôtistes du Burundi, CPBO, en sigle à la suite d'un problème lié à la signature autorisée sur le compte bancaire de l'association. Cette situation a provoqué un retard de paiement des employés qui restent sans salaire depuis plus de 2 mois. Ces informations sont communiquées par le pasteur Jean-Marie Moïdi, secrétaire général et représentant légal de la CPBO. Il précise que la réunion prévue pour trouver une solution n'a finalement pas eu lieu aujourd'hui. Cependant, le pasteur Moïdi indique que les responsables ont décidé de se retrouver à nouveau la semaine prochaine afin de résoudre définitivement ce problème, permettant ainsi aux employés de l'association de recevoir en fait leur salaire. Suivez-les au micro d'Alexis Daïseng.
Ils vont totaliser plus de 2 mois sans avoir le salaire. Donc, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que manquer le salaire, c'est une chose très difficile à gérer. Donc, il y a entendu qu'aujourd'hui, il y a une réunion. Dans laquelle réunion, ils attendent une résolution qui les autorise à recevoir le salaire. Et apprenant que dans la réunion, il n'y a pas de résolution qui vient d'être prise. Donc, ils se sont orientés vers la fermeture pour qu'ils aient accès à ces bergers pour les demander pourquoi vous ne voulez pas nous donner nos salaires alors que nous travaillons. C'est la mésentente. Mésentente entre les bergers pour pouvoir déterminer qui vont avoir accès pour signer au compte de l'ECP. Ceux qui doivent avoir accès, ce sont les secrétaires généraux avec celui qui est chargé de finances. Les trois. Les secrétaires généraux sont là avec la prise d'acte de la réunion qu'ils ont mis en œuvre. Le chargé de finances est là. Nous ne voyons pas pourquoi. Le président de l'Assemblée générale, le président du comité exécutif et d'autres ne veulent pas que nous ayons accès pour que nous puissions signer au compte afin que les activités au sein de la CPB continuent. Ce ne sont pas les travailleurs seulement qui manquent de salaire. Il y a d'autres activités qui sont paralysées, notamment pour les grippes, pas accès pour aller acheter les médicaments ici au centre. Beaucoup de choses ne sont pas en marche parce qu'on a déjà fermé ça.
Qu'est-ce que vous demandez alors?
Ce que nous demandons, c'est que les bergers puissent s'entendre. En s'entendant, la paix régnera. Ce n'est que ça que je demande. Les bergers Je viens de s'entendre que la semaine prochaine, ils vont encore se réunir pour voir comment ils peuvent gérer à cette question.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Une servitude pénale allant de 6 mois à une année et une amende variant entre 200 000 et 2 millions de francs burundais est infligée à toute personne qui commercialise ou exporte sans autorisation les produits de carrière artisanale ou les produits de transformation. Aujourd'hui, nous continuons à la lecture des articles qui relatent de la procédure et la répression des infractions sur les activités minières. C'est effectivement le contenu de l'article 252 du Code minier du 4 août 2023. C'est au moment où le chef de l'État a récemment lancé officiellement l'exportation des différents minerais. Stella Daichimi.
Dans son article 250, ce code minier prévoit que quiconque commercialise ou exporte sans y être autorisé des minerais, des produits de carrière issus d'une exploitation mécanisée ou industrielle ou leurs produits de transformation est puni d'une servitude pénale d'une année à 2 ans et d'une amende de 10 millions à 20 millions de francs burundais ou l'une de ces peines seulement. Ce même article stipule que les substances minérales extraites ou commercialisées illicitement sont immédiatement saisies et confisquées par l'autorité compétente. Ils constatent l'infraction et sont transmises au parquet pour disposition et compétences. Ainsi, les substances sont vendues aux enchères au profit du trésor public. Conformément à l'article 251, est puni d'une amende de 20 millions à 50 millions de francs burundais, tout titulaire d'un titre minier qui se livre à la commercialisation des substances minérales à un comptoir sans y être autorisé, et le titulaire d'un comptoir d'achat et d'exportation des substances minérales qui ne respecte pas les délais de rapatriement des recette d'exportation conformément aux dispositions disponibles à l'article 148 du présent code est puni d'une amende d'un montant égal à 5% du montant non rapatrié. Quiconque commercialise ou exporte sans autorisation les produits de carrière artisanale ou leurs produits de transformation est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 1 année et une amende de 200 000 à 2 millions de francs burundais ou l'une de ces peines seulement conformément à l'article 252 du même code et dans son article 254, ce même code prévoit que toute personne qui met obstacle à l'exécution des injonctions et des instructions émanant du ministre ayant les mines et les carrières dans ses attributions est punie d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs burundais.
À la source, reportage.
Des citoyens proches des lacs de Kirundo regrettent la situation de pénurie d'eau potable malgré la proximité de ses sources. Ils trouvent qu'il s'agit d'une opportunité non exploitée et d'appeler le pouvoir à penser à des projets d'en profiter en vue de résoudre définitivement la problématique. Alain Désiré Boukenez.
Nous sommes au bord du lac Chohoha, du côté de la sous-colline Kigozi, colline Yaranda, de la zone Kavomwa, commune Kirundo. La population environnante regrette ne pas profiter des eaux de cette source.
Cette localité compte de nombreux lacs et rivières. Cependant, nous n'en tirons aucun profit car nous ne disposons pas de moyens nécessaires pour exploiter leurs ressources. Nous avons besoin d'appui pour y parvenir.
Des citoyens trouvent qu'exploiter les lacs pourrait non seulement générer de l'eau potable, mais également faciliter l'irrigation le cas échéant.
Lorsque je vais irriguer mon champ, cela me prend énormément de temps car je dois puiser de l'eau directement dans ces lacs. Nous sollicitons l'intervention de l'État afin que cette eau puisse nous parvenir ici dans les zones montagneuses.
L'administrateur de la commune Kirundo confirme l'existence d'opportunités non exploitées. En plus des lacs, il cite d'autres sources d'eau.
Notre principal atout dans le secteur de l'eau réside dans l'existence de ces lacs et de nombreuses autres sources. Nous comptons 306 sources qui ne sont pas encore aménagées. C'est là notre véritable force.
La commune a prévu cette année dans son budget 20 millions pour faire face à cette problématique dans la mesure du possible. L'administrateur communal Jean-Bekmas Ndikudiayo précise qu'il est prévu la réhabilitation de 20 sources d'eau.
Alimenter la population en eau potable est une tâche qui exige d'importants moyens. Il est impossible de la mener à bien en une seule année. Nous envisageons d'aménager 20 sources au cours de cette année.
Les lacs de la localité sont au nombre de 7, à savoir Chohoha, Kweru, Gwihinda, dénommé aussi lac aux oiseaux, Kanzigiri, Nagitamo, Narungazi et Gachamirindi. L'administrateur de la commune Kirundo indique que sur un effectif de 140 collines, 84 souffrent énormément en manque d'eau potable.
Alain Désiré Boukeneza, fin de ce journal et merci à vous de l'avoir écouté. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.